Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur différents aspects de la diplomatie française. Et nous avons pour nous épauler aujourd'hui l'aide de Michel Duclos. Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel Duclos est ancien ambassadeur et conseille l'Institut Montaigne sur les grandes questions géostratégiques qui nous préoccupent aujourd'hui. Alors, la France, la diplomatie française, parce qu'elle est un petit peu sous des feux contraires sur différents théâtres. Je pense évidemment au retrait du Niger, au rapatriement de l'ambassadeur. Au Niger, donc, on a l'impression vraiment d'une période qui se ferme, de la façon qu'avait la France de se porter au secours de ceux qui lui demandaient du secours, mais au-delà de maintenir une présence active dans un certain nombre de zones africaines. Je pense aussi à l'Algérie, parce que en Algérie, le président de la République a essayé d'imprimer une politique, je ne veux pas dire pro-algérienne, mais en tout cas de rapprochement avec l'Algérie, qui a eu pour effet aussitôt de nous brouiller avec le Maroc, qui est quand même un partenaire stratégique de longue date, et qui aujourd'hui est récompensé, si j'ose dire, par la décision des autorités algériennes d'interdire dans les écoles privées l'enseignement du français. Donc on ne peut pas être mieux symbolisé le fait que les Algériens ne veulent pas de la main tendue d'Emmanuel Macron. Voilà les deux sujets qui m'interpellaient les plus récents, mais il y en a peut-être d'autres. Et puis je voudrais aussi qu'on dise un mot avec vous, Michel Duclos, tout à l'heure, de la situation très particulière de l'Arménie, qui est aujourd'hui complètement isolée et qui a été trahie par son protecteur russe et qui aujourd'hui, avec la crise du Haut-Karabakh, est dans une situation d'isolement assez tragique. Michel Duclos, peut-être peut-on commencer par l'Afrique et le Niger. Que vous ont inspiré donc ce retrait français, que vous inspire ce retrait français et finalement le rapatriement de l'ambassadeur qui était probablement inévitable compte tenu du fait que la CDAO n'intervenait pas. La CDAO n'intervenant pas, on ne voit pas qu'on pouvait rester encore trop longtemps au Niger. Michel Duclos.
Écoutez, j'avais été un peu surpris des propos du président de la République lors de son allocution aux ambassadeurs fin août, où il avait semblé prendre une position très sentimentale, où c'était un cri d'amour blessé, ce que je peux comprendre, parce qu'il s'est beaucoup investi en Afrique. Certains de ses conseillers m'avaient dit que c'est sa vraie passion en politique étrangère. Il a eu d'ailleurs des bonnes intuitions de vouloir essayer de surmonter les problèmes de mémoire, la restitution des biens culturels, compléter l'action militaire par nouvelles actions en matière de développement et de transition écologique, etc. Il a monté tout un système qui, sur le papier, était très très bien. C'est une véritable cathédrale, si je puis dire, avec des financements du Golfe, une action, une présence européenne, etc. Des Nations Unies aussi, dans le cas du Mali. Simplement, pendant qu'on faisait tout cela, le sol se dérobait sous nos pas. Et donc, les populations se retourner contre nous. Alors, plutôt que d'accuser tel ou tel, hein, c'est pas ça le problème. Ceux qui disent c'est la faute de la DGSE ou c'est la faute des diplomates, c'est le système français qui, à mon sens, n'a pas perçu une évolution en profondeur de ces pays avec l'explosion démographique, l'urbanisation, la présence maintenant massive d'autres puissances tutélaires possibles, d'autres patrons, si je puis dire, un peu les États-Unis, la Russie sous la forme que l'on sait, la Chine sur le plan économique. Et donc pour ces pays, la France n'est plus qu'un pays parmi d'autres. Et si vous dirigez ces pays ou si vous aspirez à les diriger, vous avez besoin de cultiver le nationalisme compte tenu de la pauvreté dans laquelle gisent les populations. Et donc c'est très facile d'agiter le bouc émissaire de l'ancien colonisateur. Donc, il était en quelque sorte fatal, alors c'est plus facile à dire après qu'avant, que tout le monde se retournerait contre nous dans cette région.
Jean-Claude Casanova.
Oui, non, ce qui se passe devait nécessairement se passer, si j'ose dire, parce que la zone sahélienne de l'océan Atlantique à l'autre côté, à l'est, si vous voulez, est une zone troublée depuis très longtemps. Il y a déjà eu des guerres au XIXe siècle, si vous voulez. Et c'est une zone troublée parce que c'est la zone d'islamisation de l'Afrique. Donc elle supporte le contre-coup des événements du monde musulman, radicalisation, etc., toutes les formes de tensions que connaît le monde musulman. Et d'autre part, il y a des divisions ethniques profondes. C'était la zone dans laquelle les musulmans du Nord allaient chercher des esclaves. Et c'est une zone extrêmement difficile à tenir que la colonisation a stabilisé. La colonisation a donné des frontières très artificielles qui créent aujourd'hui des problèmes. Et depuis, Michel Duclos l'a invoqué, la nature s'est totalement modifiée. C'est-à-dire que la croissance démographique qui s'est produite, qui est un phénomène historique unique, il ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité, des taux de croissance démographique à 3% par an, c'est-à-dire doublement de la population en 23 ans. Bon, c'est un phénomène unique, ça s'accompagne de l'urbanisation, et je pense qu'il y a une crise profonde des régimes politiques qui va être lié à ces deux phénomènes, tout simplement, et pour parler comme aurait parlé Pareto, il y aura une élite militaire qui va succéder à une élite plus ou moins bien élue. C'est-à-dire que l'élection correspondait à une forme tribale et rurale, et c'est la manifestation et la sécurité, le contrôle policier, et donc militaire, qui va succéder, compte tenu de la nature de ces régimes. Donc, la France est trop petite pour gérer une partie importante de cette région qui correspondait au haut de l'Afrique occidentale française. Donc, elle ne peut pas, elle est partie déjà. Il y a 60 ans, nous avions des collaborations avec les régimes changent. Et puis, il y a ce problème de l'état d'esprit. Il faut voir que on dénonce le colonialisme en France. Bon, on dénonce la période coloniale en France. Eh bien, il est normal à ce moment-là que les jeunes Africains accroissent leur degré de ressentiment, puisque les Français eux-mêmes disent « tout ce que nous avons fait est mal ». Alors, en face, ils disent « non seulement c'est mal, c'est horrifique ». Et donc, si vous voulez, nous récoltons les fruits de notre superbe évolution intellectuelle sur nous-mêmes.
Michel Duclos.
Non, je l'avais, je crois, déjà dit une fois à ce micro... sur cet aspect d'évolution des perceptions, les opinions, etc., il faut bien voir que quand les leaders indépendantistes de ces pays se sont révoltés contre nous, ils l'ont fait au nom des idéaux de la République. Oui. Aujourd'hui, chez les gens de 20-25 ans, tout ça, c'est fini, on n'en parle plus. D'autant plus qu'il y a, indépendamment de tous les autres facteurs de crise qu'on a mentionnés, il y a une crise de la démocratie dans ces pays qui ont... se sont démocratisés il y a une quinzaine d'années, à peu près, où c'est là où on a commencé à respecter vraiment les élections, l'état de droit, etc. Et, c'est par les populations ont le sentiment que leur situation n'a pas progressé et que même par ailleurs, le terrorisme, etc., rend la vie impossible. Et donc, il y a un désenchantement à l'égard de la démocratie. Et je pense que malheureusement, les putschistes ont de beaux joueurs devant eux. Alors là-dessus, la question de l'interventionnisme militaire français, avons-nous eu tort, avons-nous eu raison d'intervenir ? Le fait est, mais là encore une fois, c'est plus facile à dire ex post qu'avant, que si vous intervenez, vous devenez l'otage de la situation politique locale. Les gens au pouvoir tendent à vous manipuler parce que ça les arrange, ça les protège, ça leur permet de se maintenir et de s'enrichir, disons-le franchement, au passage. Et les gens de l'opposition ont un bouc émissaire facile. Donc, c'est aussi sur le plan politique que l'intervention militaire est extrêmement compliquée.
Alors, que faire aujourd'hui sinon organiser le repli en bon ordre, ce qui est en train de se faire d'ailleurs, mais...
On n'a pas d'autre option. Et la vraie alternative, c'est fallait-il le faire de manière spectaculaire et en prenant les devants, si vous voulez, je pense à Mitterrand au moment de l'attentat au Liban, vous savez, Dakar,
oui.
Qui est allé le lendemain sur place saluer nos morts, et puis en rentrant à Paris, il a dit c'est fini, quoi. Là, je pense que le président de la République aurait pu faire comme ça. Il aurait pu dire, à un moment donné, la France a eu raison, elle a bien fait, nous avons une attitude noble, maintenant on veut plus de nous, eh bien on se retire. Un point, c'est tout. Alors que l'autre choix, qui est celui qui a été retenu, c'est plutôt d'un retrait phasé, avec différentes étapes. On annonce un jour la fin de Barkhane, mais on découvre que nos soldats sont quand même restés dans le pays d'à côté. Et donc, d'une certaine façon, c'est plus difficile de rompre. Mais là, je pense que avec la décision sur le Niger, il est quand même vraisemblable qu'un vrai aggiornamento de notre politique africaine soit maintenant décidé, quoi.
Jean-Claude.
Oui, non, il faut aller vers une politique économique raisonnable d'échange, d'aide. Il faut poursuivre l'aide, la rendre conditionnelle. C'est-à-dire qu'il faut dire nous aidons à condition que vous ayez une politique démographique, que vous respectiez les traités en matière d'immigration, etc. Donc, il faut une politique contractuelle sans présence militaire. Les États-Unis peuvent se permettre une petite présence et surtout une présence technique par la surveillance par le ciel, si vous voulez. Et les États-Unis interviendront si des événements très graves se posent par des moyens indirects. Mais la présence de troupes, si vous voulez, me paraît extrêmement dangereuse et nous ne sommes pas une puissance militaire assez forte pour avoir des garnisons en Afrique, si vous voulez. Nous avons besoin de conforter plutôt la défense européenne.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Michel Duclos, qui est ancien ambassadeur, conseiller de l'Institut Montaigne pour les questions géostratégiques. Nous parlons des événements en Afrique, qui sont donc contraires à ce qu'avait envisagé la France et le président de la République. Pour poursuivre sur ces questions diplomatiques un petit peu aiguës, je voulais évoquer avec vous, Michel Duclos, l'Algérie. Parce que l'Algérie, le président de la République a fait beaucoup d'efforts, y compris sur essayer de passer par une réconciliation mémorielle, qui serait l'antichambre, au fond, d'une réconciliation tout court et qui permettrait d'avoir avec l'Algérie des relations positives et apaisées. En retour, s'est produit deux choses. D'une part, le mécontentement très vif du Maroc, et alors que le Maroc est quand même un partenaire stratégique de très longue date de la France, d'une part, et d'autre part, l'attitude du gouvernement algérien qui s'en prend à nouveau à l'enseignement du français. Et ça m'a rappelé ce qui m'était apparu dès l'annonce du tournant pro-algérien du président de la République. Il y a eu François Mitterrand dès 1982, je crois. Et le premier voyage à Alger du président de la République, François Mitterrand, se soldait par un catalogue de promesses totalement extravagant, allant de l'achat du gaz algérien à l'équipement de l'armée algérienne par du matériel français, en passant par le développement de l'activité d'un certain nombre d'entreprises françaises en Algérie. Voilà. Et donc, la délégation française était rentrée à Paris sûre de son succès. Et voilà que quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, le président Chadli décide d'arrêter l'enseignement du français comme première langue dans les lycées algériens. Bon, une façon de dire, circuler, il n'y a rien à voir. Même chose de la part de Jacques Chirac, qui fait un voyage en Algérie où il est accueilli par la foule de façon enthousiaste. Il rentre à Paris.
Une foule enthousiaste qui criait « visa, veto ». Visa, veto. Oui. Veto, parce que c'était au moment de l'affaire irakienne.
Et absolument. Et donc, qui rentre à Paris, là aussi, très, très heureux de son voyage et des promesses, encore une fois, d'une réconciliation avec l'Algérie. Et puis, même chose, il subit un peu le même traitement que François Mitterrand avec le président Chadli. Et on a à nouveau des actes du gouvernement algérien qui sont des actes délibérément hostiles à la culture française, ainsi de suite. Et là, on voit la reproduction exactement de cela avec Emmanuel Macron. Donc, on se dit, mais qu'allions-nous faire dans cette galère, si j'ose dire, alors que le partenariat stratégique avec le Maroc semblait quelque chose de plus important, d'autant que le Maroc s'est constitué un peu en point d'appui stratégique vis-à-vis du reste de l'Afrique, en tout cas de l'Afrique subsaharienne et même au-delà. Donc, comment regardez-vous cela, Michel Duclos, même si j'ai été un peu caricatural dans mes rapprochements?
Non, si vous voulez, là encore, je ne serais pas partisan de tout jeter à l'eau du jour au lendemain, mais dans le cas de l'Algérie, mon propre expérience est assez limitée, mais malgré tout, il m'est arrivé d'avoir à traiter avec les Algériens. C'est assez normal qu'on ait une attitude d'esprit positive, qu'on cherche à améliorer les choses. Il ne faut pas en attendre plus que ce que la nature peut donner, puisque l'actuelle génération au pouvoir utilise le ressentiment anti-français comme son fonds de commerce. Donc il faut le savoir, c'est les anciens du FLN qui continuent sur leur lancée idéologique. Alors encore une fois, qu'on cherche à améliorer les choses, c'est tout à fait normal. Là où je crois que nous devrions tirer les leçons du passé, c'est on doit renoncer une fois pour toutes à la notion de fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire que de temps en temps, on se persuade qu'il y a un moment un peu différent des autres. Et là, par exemple, après la guerre en Ukraine, les Algériens ont pris conscience que d'avoir bradé le blé français pour se brancher uniquement sur le blé des Russes et des Ukrainiens, c'était pas forcément un bon calcul. Là aussi, par exemple, le fait qu'ils étaient rejetés par les BRICS, vous savez, ils étaient candidats et ils y ont beaucoup cru. Ça n'a pas intéressé ni les Russes ni les Chinois. Donc on aurait pu espérer que justement ils se rendraient compte que les Français, malgré tout, c'est quand même plus sûr, plus stable. Mais non, c'est l'inverse. Ils se vengent sur nous. Alors voilà, c'est comme ça. Et dans ces conditions-là, je pense que il faut cesser de ménager l'Algérie dans nos relations avec le Maroc. Et là, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la France a raison de résister au mouvement fait par les États-Unis, l'Espagne sous une autre forme, et d'autres, de reconnaître le caractère marocain du Sahara occidental. Alors je ne crois pas qu'on puisse changer de position du jour au lendemain. Ces choses-là, comme disait Talleyrand, la diplomatie est affaire de transition. Mais dans le cadre d'un paquet plus large de relance de nos relations avec le Maroc, je pense que c'est un point de passage obligé.
Jean-Claude Casanova.
Non, je suis entièrement de l'avis de Michel. Il est difficile d'être ami avec les deux à la fois, et l'Algérie crée des difficultés particulières, difficiles à interpréter. D'ailleurs, il y a une irritabilité algérienne, mais l'Algérie a des problèmes internes beaucoup plus profonds que le Maroc, d'une certaine façon. Ça a toujours été le cas, d'ailleurs, historiquement. Et je crois qu'il faut, si j'ose dire, porter notre croix.
Alors, le Maroc, c'est le cas typique que j'évoquais tout à l'heure, où les États-Unis et la Chine ont pris une place considérable. Donc, du point de vue américain, la France, ça n'a plus l'importance que ça avait auparavant. Il faut en prendre conscience. Et d'ailleurs, de manière générale, vous savez, on parle beaucoup je suis le premier à avoir lancé ce thème avec le bouquin que j'avais dirigé sur la guerre en Ukraine et le nouvel ordre mondial. L'affirmation du Sud global, ou au moins des grandes puissances du Sud, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais ça, c'est un fait majeur. Et il faut considérer que le Maroc, comme vous l'avez dit, c'est un grand pays du Sud, avec une place particulière en Afrique. L'IOT, tout ça, c'était du passé, mais maintenant, il faut construire des relations sur de nouvelles bases, plus égalitaires.
Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, Michel Duclos, même si le temps nous est compté, c'est évidemment la situation de l'Arménie. Où il se produit à nouveau des événements épouvantables avec la fuite des Arméniens du Haut-Karabakh, la victoire éclair de l'Azerbaïdjan dans cette zone, l'absence de soutien ce qui m'a le plus frappé d'ailleurs, c'est que l'Arménie aurait dû pouvoir sans doute appeler au secours son protecteur russe et que le protecteur russe s'en est complètement lavé les mains. Donc est-ce qu'on assiste là à nouveau à une sorte de deal entre Poutine et Erdogan, ou est-ce que que se passe-t-il exactement qui fait que l'Arménie se trouve si à ce point isolée, y compris par nous-mêmes, j'allais dire les Européens, parce que comme l'Azerbaïdjan nous sert aujourd'hui du gaz
en lieu et place de la Russie, on voit qu'on a des attitudes qui sont à nouveau des attitudes de réelle politique absurde, qui consistent à, du coup, à fermer les yeux alors qu'on devrait ne pas les fermer précisément sur le drame qui se passe. Michel Duclos.
Mais Jean-Marie, vous avez tout dit, c'est-à-dire que dans les nouvelles géographies qui se dessinent dans le monde volatile d'aujourd'hui, avec des coalitions ad hoc sur différents sujets, il y a dans le Caucase une coalition Russie-Turquie-Iran qui soutient l'Azerbaïdjan. Et en Europe, vous avez des pays, la Grèce, l'Italie, d'autres, qui dépendent du gaz de Bakou. Et vous savez, lorsque Poutine a commencé à fermer les robinets de gaz, le premier pays qu'a visité Madame von der Leyen pour trouver des alternatives, c'était l'Azerbaïdjan. Et donc, on est dans une position de faiblesse vis-à-vis de ce pays. Alors maintenant, un autre phénomène, c'est que quand nos autorités répètent à la tribune des Nations Unies ou dans les discours aux ambassadeurs que le précédent russe a déchaîné en quelque sorte un recours à la force déréglementée, pour utiliser une expression de Hassan Salamé, là on en a un cas pratique. Donc maintenant les Azerbaïdjanais ne se gênent plus, puisque voilà, tout le monde aujourd'hui attaque son voisin sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Et donc, c'est pas seulement une abstraction quand le discours français met le doigt sur ce nouveau phénomène, c'est une réalité que l'on voit à nos portes. Alors, quel est l'enjeu maintenant? C'est effectivement d'essayer, sur le plan humanitaire, de sauver le maximum, d'éviter des massacres ou des choses comme ça. Et c'est aussi peut-être de faire en sorte que ce pays ne subissent pas le sort de la Géorgie, c'est-à-dire ne soient pas invinciblement attirés par ceux qui les ont trahis, c'est-à-dire les Russes. Et donc d'essayer de les maintenir dans une orbite plus occidentale que ce n'était le cas de ces dernières années, avec cette limite du soft power de l'Union européenne. L'expansion de l'Union européenne ne répond pas à tous les problèmes, et donc il faut trouver pour ce genre de pays des formats ad hoc ou des mécanismes ad hoc pour les maintenir plutôt dans notre influence.
En tout cas, c'est une leçon pour ceux qui pensaient que on pouvait isoler le cas russo-ukrainien et faire comme si ça n'emportait pas des conséquences plus larges et bien plus graves, qui justifient précisément qu'on aide peut-être encore davantage les Ukrainiens. Jean-Claude Casanova, avant de conclure.
C'est une tragédie historique pour l'Arménie, je veux dire historique parce que d'une certaine façon c'est une répétition de leur histoire. C'est une minorité chrétienne insérée dans le monde musulman qui a été plusieurs fois menacée et qui avait deux protecteurs naturels qui étaient la Russie et l'Angleterre et la France, et qui a connu des mésaventures épouvantables, si vous voulez. Et le massacre des Arméniens est en partie d'ailleurs lié à l'alliance des Arméniens avec les Russes et les Occidentaux. Et donc, aujourd'hui, j'imagine que les Arméniens vivent cela de façon tout à fait tragique. Il y a une hypocrisie occidentale à cause de l'Azerbaïdjan. Et il y a, étrangement, les Russes laissent tomber les Arméniens aujourd'hui plus fortement qu'ils ne l'ont jamais fait, si j'ose dire.
Oui, parce qu'ils pensent que les Arméniens n'ont nulle part où aller. Et ils ont besoin de cette alliance avec la Turquie et l'Iran.
Oui, et puis il y a la détestation de Poutine à l'égard de tous ses voisins qui ont des aspirations naturelles à la démocratie.
C'est vrai que ça avait commencé il y a plusieurs années par cela, oui.
Oui, c'est d'abord quelqu'un qui est obsédé par le fait de faire reculer la démocratie, ça paraît de plus en plus.
Un tyran qui a peur.
Oui, puis c'était déjà présent dans ses écrits pour celles et ceux qui ne voulaient pas le voir.
Donc, messieurs les réalistes, ne croyez pas que la nature des régimes ne compte pas, parce que ça compte dans l'esprit de M. Poutine.
Absolument. Voilà ce que nous pouvions, ce très rapide tour d'horizon sur les différents fronts diplomatiques d'aujourd'hui, avec Michel Duclos, donc ancien ambassadeur. Merci beaucoup Michel Duclos d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Et Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous, nous vous remercions bien sûr, et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.